Laudetur Jesus Christus.
Le Triduum Pascal s'ouvre ce jeudi soir. En attendant, la basilique Saint-Pierre s'apprête à accueillir les fidèles pour la messe chrismale qui commencera d'ici une heure et dont l'homélie a été préparée par le pape François. On revient sur le calendrier des célébrations de Pâques en début de ce journal. En ce jeudi saint, les prêtres sont invités à renouveler leurs promesses sacerdotales. Témoignage de foi dans notre dossier en fin de journal avec le père Baldé, fils d'un imam guinéen converti au catholicisme contre l'avis des siens. En Ukraine, la semaine sainte a commencé par la mort de 35 civils à Soumy, le jour des rameaux. Les bombardements s'intensifient, mais les Ukrainiens gardent l'espérance et marchent ensemble sur le chemin de la croix. Nous entendrons l'archevêque majeur de Kiev. Nous irons aussi à l'est de la RDC où les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre et visent particulièrement les enfants, selon l'UNICEF. Et puis une mission délicate pour Giorgia Meloni attendue à Washington, première dirigeante européenne à rencontrer Donald Trump depuis le début de l'offensive commerciale américaine.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Ce jeudi saint marque le début des célébrations jusqu'à Pâques, l'occasion pour les chrétiens de célébrer la passion, la mort et la résurrection du Christ. Bonjour Olivier Bonnel.
Bonjour Alexandra.
Comment vont se dérouler ces trois jours au Vatican, des célébrations sans la présence du pape François?
Oui, le pape toujours convalescent et qui a délégué des cardinaux pour présider les célébrations. Cela commencera dans une heure à 9h30 avec la messe chrismale présidée dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Domenico Calcagno, le président émérite de l'administration du patrimoine du siège apostolique. Cette messe chrismale où seront bénies les huiles saintes et le Saint-Crème et au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Ce soir à 18h, c'est la messe de la scène du Seigneur qui sera célébrée à l'autel de la chaire de Saint-Pierre, ouvrant officiellement le Triduum Pascal. Une célébration nous fait mémoire du dernier repas du Christ avec ses disciples et au cours de laquelle a lieu le lavement des pieds. Une messe qui sera elle présidée par l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, le cardinal franciscain Mauro Gambetti.
Et les autres célébrations durant ce Triduum ont également été déléguées par le Saint-Père, Olivier.
Oui, demain, vendredi saint, la célébration de la Passion du Seigneur aura lieu à 17h, toujours dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le cardinal Guggerotti, le préfet du Dicastère pour les églises orientales, et le traditionnel chemin de croix du Colisée avec les Romains se déroulera à partir de 21h15. C'est le cardinal Baldo Reina, le vicaire général du diocèse de Rome, qui a été chargé par le pape de le présider. Samedi soir, François a confié au doyen du Sacré Collège, le cardinal Ray, de présider la veillée pascale à partir de 19h30 dans la basilique vaticane. Enfin, la messe de la résurrection dimanche de Pâques sera présidée par le cardinal Angelo Comastri, le vicaire général émérite pour la cité du Vatican. À noter, Alexandra, que si le pape, sauf surprise, sera absent à ses rendez-vous, ce sont bien ses homélies et méditations qui seront prononcées.
Merci Olivier Bonnel. Des cérémonies évidemment à suivre en direct, commentées en français sur Vatican News, aussi bien sur YouTube que sur notre page Facebook. En Ukraine, la semaine sainte a commencé avec un bombardement russe meurtrier à Soumy. Le dimanche des rameaux, 35 civils ont été tués par deux missiles russes. On apprend ce matin qu'une attaque massive de drones a fait 3 morts et 30 blessés, dont 5 enfants, la nuit dernière à Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Toutes ces souffrances qui entachent le sens de la résurrection. Monseigneur Tchevchouk, l'archevêque gréco-catholique de Kiev, revient sur la force des Ukrainiens soutenus par leur foi.
Nous avons le sentiment que plus nous parlons de paix pour l'Ukraine, plus nous travaillons, même au niveau international, pour encourager le dialogue et rechercher un accord, plus nous sommes harcelés par ces attaques, car elles ont vraiment augmenté au cours des 3 dernières semaines. Même ici, dans la ville de Kiev, nous vivons sous les bombardements tous les soirs. Cela ne s'est pas produit avec une telle intensité au cours des mois précédents. Nous constatons une escalade, un acharnement très très fort. Pourtant, notre peuple ne ressent pas cette souffrance comme quelque chose d'insurmontable, mais comme un chemin. Nous savons que nous sommes sur le chemin de la croix. Le dynamisme du chemin de croix n'est pas de rester immobile, mais de marcher. Un chemin qui va de la souffrance à la résurrection, et nous marchons ensemble.
Ma camminare dalla sofferenza verso la risurrezione. Stiamo camminando insieme.
Des propos recueillis par Svitlana Dukovitch du programme ukrainien de Radio Vatican. Le conflit en Ukraine au cœur de la visite à Paris du secrétaire d'État américain Marco Rubio ce jeudi. Le chef de la diplomatie américaine, accompagné de l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, doit rencontrer le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères français dans un contexte de tensions accrues autour des droits de douane. De l'autre côté de l'océan Atlantique, la chef du gouvernement italien est attendue à Washington. Giorgia Meloni est la première dirigeante européenne à rencontrer Donald Trump depuis le début de cette offensive commerciale. Un déplacement à la fois pour instaurer le dialogue au nom des Européens et défendre les lourds intérêts italiens à Rome, Blandine Hugonnet.
Giorgia Meloni met sa casquette d'intermédiaire direction la Maison Blanche, pressée de ne pas rater la fenêtre ouverte par la suspension des 20% de droits de douane pendant 90 jours par Donald Trump. Pas épargnée, l'Italie compte sur ses liens privilégiés avec le conservateur américain pour débloquer les relations commerciales des deux continents. C'est l'objectif affiché par Rome et confirmé par Bruxelles. Ce premier tête-à-tête d'un dirigeant européen depuis la mise en œuvre du protectionnisme américain est soutenu, du moins coordonné par Ursula von der Leyen, en contact permanent avec l'envoyée italienne sans parler au nom des 27. Elles ne se sentent pas pour autant sous pression, confie Giorgia Meloni, qui n'en oublie pas les intérêts italiens. Au contraire, Rome risque gros. Les Américains sont les premiers clients des exportations de la botte en dehors de l'Union européenne. Un marché de 67 milliards d'euros que l'italienne va défendre dans le bureau ovale. Rien n'a été dévoilé de son plan d'attaque, mais ambitieuse, la souverainiste devrait proposer de remettre à zéro les tarifs douaniers entre les deux côtés de l'Atlantique. En Italie, l'opposition de gauche persifle. À jouer cavalier seul, Giorgia Meloni divise l'Union européenne et pourra difficilement rentrée de Washington en ayant accompli un miracle pour les Européens. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
Rome où se rendra en fin de semaine le vice-président américain J.D. Vance. Les États-Unis et le Japon ont entamé hier à Washington des pourparlers sur les taxes douanières. Pas d'avancée à signaler, mais les deux pays visent un compromis d'ici 90 jours. Ces droits de douane qui agitent le continent asiatique, le président chinois Xi Jinping est arrivé à Phnom Penh ce jeudi après sa visite au Vietnam et en Malaisie, dans le but de renforcer les liens commerciaux avec l'Asie du Sud-Est. En Birmanie, en pleine célébration de la nouvelle année, la junte militaire annonce l'amnistie de près de 5000 prisonniers. Les célébrations sont restées discrètes alors que plusieurs régions sont encore meurtries par le violent séisme du 28 mars dernier. Sans compter la guerre civile toujours en cours, le 8 avril, l'église de la petite ville de Phalan dans l'État Chine, à l'est du pays, a été détruite par des bombardements aériens. Dommage collatéral des affrontements entre l'armée et les milices locales. Après le cauchemar le plus sombre de la douleur, viendront la lumière et la joie de la résurrection, a déclaré dans une interview accordée aux médias italiens CIR, l'évêque de Hakka dans l'État Chine, Mgr Lucius Rekung. Fêter la résurrection dans un contexte de guerre, c'est également le défi en République démocratique du Congo. Dans son message de Pâques adressé aux fidèles du Nord et du Sud Kivu, l'archevêque de Bukavu exhorte à la fin du conflit à l'est du pays, toujours sous occupation des rebelles rwandais du M23. Monseigneur François-Xavier Marois réitère son appel aux politiques impliquées à prendre des décisions utiles pour arrêter la guerre au lieu de prolonger des discussions qui laissent le peuple meurtri dans l'agonie. Les enfants sont les premières victimes de la violence, mais en garde l'UNICEF. Le nombre d'incidents a au moins triplé depuis le début de l'année et le viol est utilisé comme arme de guerre. Un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 30 minutes, rapporte le Fonds Unisien. Ramatou Touré est chef du programme Protection de l'enfant pour l'UNICEF en République démocratique du Congo.
Les enfants constituent une grande partie des personnes déplacées qui avaient déjà été déplacées à plusieurs reprises de leur maison, de leurs endroits d'origine pour être dans des camps de déplacés. Et lorsque le conflit s'est accentué, ils n'ont plus eu d'abri. Donc, ils étaient en première ligne lors des affrontements. Aussi parce que de nombreux enfants ont été recrutés par les parties au conflit pour servir dans leur rang. Nous savons aussi que de nombreux enfants ont été affectés par des violences sexuelles, que ce soit des filles ou des garçons. De nombreux enfants ont été victimes d'enlèvements et aussi de nombreux enfants ont perdu leur famille alors que les tirs s'accentuaient, les familles ont fui. Donc de nombreux enfants se sont retrouvés seuls, séparés, sans leur famille, donc d'autant plus vulnérables. Ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo et à l'Est en termes de violence sexuelle, ne correspond pas à des incidents isolés. Il s'agit d'une tactique délibérée. Nous parlons de milliers d'enfants. Il s'agit d'une catastrophe qui se déroule sous nos yeux.
Des propos recueillis par Myriam Sandounot. Et puis avant de passer à notre dossier, cette nouvelle qui nous vient de Lourdes, où le recteur du sanctuaire de Lourdes, le père Michel Deban, a annoncé à la fin du chapelet en italien hier la reconnaissance du 72e miracle de Lourdes. Antonietta Racco, atteinte de sclérose latérale primitive, a été guérie en 2009 lors de son pèlerinage à Lourdes. En ce jeudi saint, l'Église commémore l'institution de l'Eucharistie qui rappelle le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples. Ce jour marque également la fête du sacerdoce où tous les prêtres sont invités à renouveler leur engagement pris lors de leur ordination. Lors de la messe chrismale l'an dernier, le pape François soulignait en effet que le Seigneur recherche surtout parmi ceux qui lui sont consacrés, ceux qui pleurent les péchés de l'Église et du monde en se faisant instrument d'intercession pour tous. Pour ces prêtres au service de l'Église, le chemin est parfois semé d'embûches, comme ce fut le cas pour le père Frédéric Baldé, originaire de Guinée, fils d'un imam issu de la communauté Peul. Il est aujourd'hui prêtre du diocèse de Paris et de la communauté de l'Emmanuel. Il revient sur sa conversion réalisée contre l'avis de ses proches.
C'est toujours une très grande joie de vivre la Semaine Sainte et au cours de cette Semaine Sainte, de pouvoir vraiment renouveler mes engagements pris lors de mon ordination. Et donc, c'est l'occasion, le jeudi saint, de prendre conscience de ce don inestimable qui m'a été fait de participer au sacerdoce du Christ et de vivre véritablement dans la gratitude. C'est gratuitement que Dieu m'a fait ce don. Et en même temps, il est fidèle à ce don jusqu'au bout. Malgré mes infidélités, mes faiblesses, je puis toujours m'appuyer sur le Christ.
Fils d'un imam, vous faites le choix de devenir chrétien. Comment la nouvelle a été accueillie dans votre famille issue d'une communauté peul, très ancrée dans l'islam?
Oh, très très mal. C'est très très mal passé parce que pour mes parents, il n'était pas question. D'abord, c'était un retour en arrière, car l'islam est la dernière religion monothéiste révélée, pourquoi revenir au christianisme? Et puis, vu la position de ma famille, c'était inacceptable. Et donc, ça a provoqué une rupture entre mes parents et moi, rupture qui a duré une vingtaine d'années, ce qui d'ailleurs m'a obligé à quitter la Guinée. Donc, j'ai poursuivi mon chemin, ma formation, sans que ma famille, mes parents y soient associés jusqu'à mon ordination. C'est plusieurs années après mon ordination que petit à petit, les relations ont repris avec mes parents. Même si la question religieuse reste quand même presque un sujet tabou.
Qu'est-ce qui a motivé ce choix de suivre le Christ?
Alors, ce qui m'a motivé à être chrétien, c'est simplement la question de la communion avec Dieu. Avec la foi chrétienne, je me rendais compte de cette possibilité, puisque si Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, c'est qu'il y a donc une possibilité de communion avec Dieu. De là à devenir prêtre, c'est une autre histoire. Mais c'est là aussi on se rend compte de la sollicitude du peuple chrétien, du peuple de Dieu, puisque pour moi, j'avais jamais pensé ni même imaginé devenir prêtre, mais c'est des fidèles paroissiens qui un jour m'ont posé la question, alors tu ne veux pas devenir prêtre? Ça m'a tellement surpris. Et puis finalement, je me suis dit, il est temps de prendre cette question au sérieux, de poser la question au Seigneur. Petit à petit, mon cœur s'est ouvert à cette proposition pour être enfin capable d'entendre l'appel de Dieu et de pouvoir y répondre.
Dans le diocèse de Paris, vous avez été responsable des relations avec l'islam. Comment avez-vous vécu cette expérience?
Ça a été l'occasion pour moi de beaucoup former les fidèles chrétiens sur la connaissance de l'islam, pour entrer en dialogue avec l'islam partout où ils sont, dans leur milieu de travail, dans leur quartier, dans leurs écoles, etc. Donc j'ai assuré beaucoup de formations pour la découverte de la présentation de la foi musulmane en tant que telle pour que les chrétiens comprennent quand ils ont un musulman en face d'eux, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient, pour lui ce que les choses veulent dire, pour entrer en dialogue. Car on ne peut évangéliser, annoncer le Christ que si l'on connaît l'autre, et si on connaît comment il raisonne, il fonctionne, comment il croit, il pense, voilà. Et en même temps, quand on connaît l'autre, il fait moins peur. Donc on peut entrer en dialogue avec lui. Le plus important, c'est d'être ancré sur le Christ. Si le Christ n'est pas notre tout, ça ne peut pas marcher. Et quand le Christ dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami », il faudrait vraiment que nous fassions cette expérience au plus intime de notre cœur, d'être de vrais amis du Christ. Cela seul nous aidera à tenir dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve. Il m'a aimé le premier et il a livré sa vie pour moi. C'est le socle qui doit être la base de toute personne voulant se donner au Christ, voulant suivre le Christ.
Interrogé par Myriam Sandouno, le père Frédéric Baldé, prêtre du diocèse de Paris et de la communauté de l'Emmanuel, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité en langue française revient à 13h, heure de Rome. Belle matinée à toutes et à tous en attendant.